Lundi 5 mai, 7h48, en ce début de semaine, on est à 6 degrés présentement sur Québec. C'est ensoleillé avec quelques nuages. Le maximum qu'on va atteindre cet après-midi, c'est quand même un beau lundi, un beau début de semaine. Une journée généralement ensoleillée avec un maximum de 16. Par contre, demain, alternance de soleil et de nuages. Et 60% de possibilité d'averse avec un maximum de 19 et ensuite. En tout cas, pour le moment, ce que Dame Nature nous dit, c'est que les nuages s'installent pour quelques jours. Donc, à surveiller là, de plus près au cours de la semaine. Circulation, Max?
Vraiment pas facile ce matin, secteur des ponts, passé de la rive sud à la rive nord. C'est tough. La 40 Est entre Duplessis et Henri IV, difficile également. Capitale Ouest entre Seigneurial et Laurentienne, très au rouge. Autant Pierre-Bertrand que Robert Bourassa, direction sud pour aller vers le boulevard Le Bourgneuf, là, quand même bien boucher aussi. Et le coup dans le coin des travaux, Laurentienne Sud vers rue de la Faune, difficile également.
Merci beaucoup, Max, et merci pour les informations que vous nous envoyez via le 88-971-1021. Ça nous permet de passer ces infos-là aux auditeurs, auditrices, et ça fait en sorte qu'on peut arranger ou bien planifier ses déplacements. On va jaser, Jeff, d'immigration dans les prochaines minutes. On a appris en fin de semaine que les listes d'attente sont encore plus longues dans les dossiers des immigrants au Québec.
Oui, pour la catégorie regroupement familial, on est passé de 38 500 personnes sur la liste d'attente en avril 2024 à 42 000 en avril 2025. Alors, on a le principal intéressé, justement, pour en parler, Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Immigration.
Oui, M. Roberge est au bout du fil. Bon lundi matin, M. Roberge.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être là, toujours un plaisir.
Un plaisir.
Monsieur Robert, je vous avais admis en commission parlementaire que le nombre de personnes immigrantes en attente dans la catégorie regroupement familial était passé de 38 500 en avril 2024 à 42 000 cette année en avril. Pourquoi cette hausse-là?
Parce que le Québec est victime de son succès. Beaucoup, beaucoup de gens veulent venir habiter au Québec et donc les demandes sont très, très grandes. Il y a des gens qui sont arrivés dans les dernières années qui veulent faire venir conjoints, enfants majeurs, familles élargies, etc., etc., de plus en plus. Et ça veut dire vous avez admis comme si c'était un peu un tort, mais écoutez, moi, mon indicateur là, qui me dit qu'on a fait un bon travail ou pas, c'est est-ce qu'on planifie correctement l'immigration? Est-ce qu'on répond aux besoins économiques du Québec? Est-ce que on respecte notre capacité d'accueil? Même s'il y a 100 000, 200 000 personnes de plus qui veulent venir au Québec à chaque année et qu'on peut pas accepter, c'est pas un échec pour le gouvernement du Québec ou pour le ministère de l'Immigration. Là.
Donc, à ce niveau-là, on coche oui dans toutes les cases?
Ben, écoutez, moi, je pense qu'on doit continuer de réfléchir pour être sûr qu'on doit faire mieux, mais moi, je pense qu'en ce moment, dire on va admettre tout le monde, on va faire tous les regroupements familiaux possibles, peu importe le profil économique de tout le monde, peu importe notre capacité d'accueil, ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Je comprends qu'on parle de personnes, on parle de gens qui veulent retrouver leurs proches, et il faut être délicat, puis il faut continuer d'accueillir des gens. Mais grosso modo, cette année, puis l'année passée, on a accueilli le même nombre de personnes que les précédents gouvernements et ce qu'on fait depuis des années, toujours entre 10 000 et 12 000 personnes en regroupement familial à chaque année. Donc, si la liste augmente, c'est pas parce qu'on a arrêté d'admettre du monde, c'est parce que de plus en plus de gens veulent venir ici. Je le comprends, mais comme je le dis, c'est pas parce que beaucoup de gens veulent venir ici que par magie, là, ça crée des logements, ça bâtit des écoles et puis ça bâtit des hôpitaux. Mm-hmm.
On entend plusieurs personnes dire qu'au niveau du logement, le regroupement familial ne serait pas une problématique parce qu'ils vont aller habiter dans le même logement que la personne qui est là déjà. Donc, est-ce qu'il y aurait possibilité d'en accueillir plus, compte tenu justement de ce fait-là?
Ben, je peux comprendre pour la question du logement, mais en même temps, dans le regroupement familial, il y a regroupement d'enfants majeurs aussi. Donc, on peut avoir, je ne sais pas moi, 40 ans, vouloir faire venir son fils ou sa fille de 21-22 ans. Bon, il va peut-être passer quelques mois à la maison, là, mais il faut pas penser qu'il va faire sa vie chez ses parents nécessairement. Puis dans le regroupement familial, il y a aussi la famille élargie. Là, on peut faire venir nos parents, nos grands-parents. Si on fait venir nos parents, ils vont pas nécessairement habiter chez nous tout le temps. Donc, et il y a d'autres choses, j'ai parlé du logement, mais il y a la question aussi des soins de santé. C'est sûr que si on fait venir les grands-parents qui sont assez âgés, ben ça peut poser des enjeux pour le système de santé Tout ceci étant considéré, on va continuer d'accueillir des gens. Je vais faire attention, là. On va continuer d'accueillir des gens. C'est juste qu'il faut respecter notre capacité d'accueil. Puis encore une fois, c'est pas un bon indicateur de dire, là, bon, ben si la liste diminue, le gouvernement fait un bon travail. Puis si la liste augmente, le gouvernement fait pas un bon travail. Moi, je pense qu'il y a d'autres critères à prendre en compte. Et justement, on va faire bientôt, je vais rendre public là, dans quelques semaines, notre cahier de consultation pour la planification pluriannuelle. On va avoir un portrait d'ensemble. Puis on va être capable de planifier l'immigration pour les années à venir, donner de la prévisibilité à tout le monde, autant les entrepreneurs que les Québécois, que les familles aussi, qui veulent savoir à quoi s'attendre pour le regroupement familial.
Vous viendrez nous présenter cela en studio, M. Robert. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle au téléphone. On fera un petit contact en personne, si vous voulez bien.
Ben oui, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Je vais à Québec toutes les semaines, alors ça me fera plaisir d'aller voir.
Magnifique.
Dans le domaine de l'immigration, on sait, il y a souvent eu des différends avec le gouvernement fédéral. Est-ce que présentement, ça va pas si pire? Puis comment on pense que ça va aller avec le nouveau gouvernement? Disons le nouveau premier ministre, Mark Carney.
Mais on va voir, je vous dirais, à l'usage, mais pendant la campagne, M. Carney a dit qu'il fallait ramener l'immigration à des niveaux soutenables. Donc, il y a une espèce de désaveu des politiques de M. Trudeau là-dedans, ce qui est pour moi une bonne chose. Des niveaux soutenables, ramener à des niveaux soutenables, ça veut dire qu'il faut diminuer. Donc, on va voir de quelle manière ça s'incarne, mais la discussion commence avec M. Carney. Il a aussi dit qu'il faut renvoyer plus rapidement les demandeurs d'asile qui sont refusé, ce qui est complètement démesuré en ce moment, c'est que ça prend presque 3 ans au gouvernement fédéral pour évaluer le dossier de quelqu'un qui arrive au Québec pour demander, ou au Canada, mais au Québec, pour demander l'asile. Pendant ces 3 années-là, ben la personne est ici, s'installe, peut trouver un emploi ou pas, mais consomme des services publics. En France, c'est 4 mois, puis ils trouvent ça trop long. Puis nous, au Canada, on devrait trouver ça normal d'avoir un délai d'attente de 37 mois. Ça n'a pas de sens.
Donc c'est une de vos demandes principales à Mark Carney?
Ah, c'est une de nos demandes principales. Il nous dit qu'il veut renvoyer les demandeurs d'asile refusés. Évidemment, s'ils sont refusés, ils ne peuvent pas rester ici. Mais la question du délai, c'est quelque chose sur lequel on va mettre beaucoup, beaucoup d'accent dans les prochaines semaines pour voir c'est quoi leur plan de match là, à ce gouvernement-là.
Ben d'ailleurs, M. Robert, êtes-vous confiant que le nouveau premier ministre du Canada, Mark Carney, aura une oreille plus attentive que Justin Trudeau à ce sujet-là?
Ben, il nous a donné des signes encourageants dans cette direction-là, mais moi, je ne veux ni le féliciter, ni le blâmer en amont. On verra ce qu'il fait réellement. Il s'est pas engagé à réduire le nombre de temporaires de manière importante comme on l'avait demandé. On avait demandé de réduire de 400 000 à 200 000 le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois qui relèvent d'Ottawa. Il y en a 400 000 qui relèvent d'Ottawa. Et là-dessus, on n'a pas eu l'engagement qu'on souhaitait. Maintenant, les discussions sont bonnes, les contacts sont intéressants. On va leur donner le temps de s'installer, on va leur donner le temps de sermenter leur nouveau conseil des ministres. Mais ensuite, on va vouloir des engagements clairs, puis des résultats qui suivent aussi.
Sont au dossier de francisation. Vous avez annoncé que les centres de services scolaires devront respecter les budgets qui sont accordés. Comment qu'on va faire pour respecter ces budgets-là quand on sait que ça peut être quand même volatile d'une région à l'autre, le nombre d'immigrants qui arrivent?
Ouais, l'idée de respecter les budgets, hein, c'est la moindre des choses. C'est pas une nouvelle de dire vous devez respecter vos budgets. Maintenant, on va regarder ça de manière plus serrée cette année. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment une meilleure collaboration entre le ministère de l'Immigration puis le ministère de l'Éducation. On a paraffé une entente qui clarifie vraiment mieux les rôles de l'un et de l'autre. Il faut voir qu'on est seulement à l'an 3 de francisation Québec et que on arrivait là pour restructurer un réseau qui existait, qui fonctionnait pas très bien. Mais tout le monde travaillait en silo précédemment. Là, on travaille de manière... On a fait des passerelles, on va dire ça comme ça.
Oui, oui.
Puis là, j'ai confiance que cette année, les budgets vont être, oui, respectés, mais aussi décaissés là, correctement dans l'année. L'idée, c'est pas d'ouvrir des groupes là de manière incroyable dans les premiers mois, puis après ça, couper en fin d'année.
Oui, justement, comment qu'on fait pour bien jongler avec tout ça? Parce que ça se pourrait dans une région X, exemple, qu'il y ait 400 immigrants qui arrivent d'un coup qu'il faut franciser. Est-ce qu'on les francise au courant de l'année en entier? Est-ce qu'on fait le boom au départ? Comment vous voyez ça, vous, comme ministre?
Ben, c'est rare, je vous dirais, qu'il y en arrive là... 300-400 d'un seul coup qu'on n'a jamais vu venir là, de nulle part. Je dis pas que c'est impossible, mais normalement, notre immigration est planifiée, surtout pour les temporaires, parce qu'ils arrivent avec des permis fermés, puis ils vont dans une entreprise donnée, donc on a une prévisibilité là-dessus. Il y a aussi le fait que, avec les centres de services scolaires, cette année, on va avoir vraiment une stabilité de l'offre. Vraiment, là, je m'y engage, on n'aura pas des dizaines de groupes qui ouvrent et qui ferment, comme ça, puis des drames comme on a connu l'an passé. Malgré que l'an passé, on a francisé 90 000 personnes, ce qui est un record absolu, il faut quand même se le dire. Et de l'autre côté, on a d'autres réseaux. Hein. J'ai 133 partenaires qui francisent sur le territoire québécois. Puis on est capable, justement, de répondre à des besoins qui seraient imprévus ou d'être capable de réagir à des choses qui seraient imprévues à travers les autres partenaires, les cégeps, les universités, les organismes à but non lucratif qui sont supervisés, encadrés pour être sûr de la qualité de la formation. Donc, on est capable d'ajuster en cours d'année puis d'être flexible.
Côté budget, M. Roberge, pour les centres de services scolaires, est-ce qu'il y a eu, règle générale, un certain laxisme de leur part ou c'est plutôt qu'ils ont été, submergés par trop de demandes?
Je ne dirais pas qu'il y a un laxisme. C'est que dans des années précédentes, c'était une autre manière de travailler. Okay. Il y avait cours. Il n'y avait pas, là, disons, la coordination qu'on a aujourd'hui. Ils géraient un peu plus à la demande. Puis là, l'an passé, ça a été, je dirais, une année de transition. Cette année, les rôles sont plus clairs. Puis on est confiant de pas revivre les travaux comme nous l'avons l'an passé, tout simplement.
En terminant, M. Robert, je vous avais fait ce que je pourrais appeler une petite montée de lait contre Amazon la semaine dernière concernant le fait qu'ils ont eu 196 plaintes à l'Office québécois de la langue française depuis 3 ans, alors qu'une compagnie comme Apple n'en a que 17. Comment on fait pour qu'Amazon nous respecte au Québec, eux qui ont en plus fait 2000 licenciements dans la dernière année?
Ben, on leur donne pas de passe-droit, hein, d'aucune manière. Écoutez, le mot d'ordre est clair là, au gouvernement, puis à l'Office québécois de langue française. Quand on reçoit une plainte relative à quelque chose qui relève d'Amazon, ben, pas parce que c'est un grand joueur international qu'on le prend différemment. La collaboration, quand on appelle, me dit-on, c'est pas moi qui appelle les fautifs un après l'autre, est intéressante. Il apporte les correctifs. Mais là, à un moment donné, il va falloir passer à une autre étape. L'idée, c'est pas d'être en contravention de la loi et d'appeler les correctifs quand tu te fais pogner, comme on dit en bon
français. Oui.
L'idée, c'est de respecter la loi d'emblée. Et faut qu'on se rende à cette étape-là avec eux. C'est pas parce que on a un joueur en ligne que lui peut ne pas respecter les lois québécoises. Pour moi, c'est très important l'équité. On a des petits commerçants qui ont pignon sur rue, qui respectent nos lois. Ben, il faut que les grands joueurs internationaux fassent la même chose. Puis si les Québécois continuent de faire le choix d'Amazon, ça leur appartient. Mais si vous n'êtes pas satisfait du service reçu, si vous recevez des choses avec des instructions illisibles en français, portez plainte à l'OQLF, exercez votre droit. Le gouvernement va faire son travail.
Jean-François Roberge est ministre de l'Immigration, Francisation et Intégration ici au Québec. Monsieur Roberge, merci beaucoup pour la jasette ce matin. Merci pour votre temps, en souhaitant que la prochaine fois, on se voit en personne à Rage Against le matin.
Ça sera encore mieux. Bonne journée tout le monde.
Excellent. Merci. Salut. Merci beaucoup.
Toujours une bonne discussion.
Oui, toujours une bonne discussion.
Avoir, avec
en plein
Roberge.
Contrôle de ces dossiers.
Ouais.
Tu sais, honnêtement, on a bien beau essayer de poser des petites craques ici à droite et à gauche. Il est vraiment en plein contrôle. Il a récupéré un ministère dans un moment vraiment pas évident, alors que Justin Trudeau était dans des politiques très multiculturelles. Les portes étaient grandes ouvertes en termes d'immigration et il a réussi à stabiliser les choses à l'heure actuelle et surtout à se faire entendre auprès du Canada. Ça va être la prochaine grande étape sous l'ère Mark Carney, c'est de signer une entente entre le Québec et le Canada pour les capacités d'accueil en immigration.
Puis c'est important ce que tu as mentionné là, parce que des fois, on peut être, j'allais dire difficile, mais on peut être critique sur certains politiciens ou certaines politiciennes quand on ne maîtrise pas nos dossiers. Pour ce qui est de M. Jean-François Roberge, toujours pas mal sa coche.
Il avance de façon très stratégique et non pas émotive, alors que le dossier de l'immigration crée énormément d'émotions au sein de la population, crise du logement, ghetto qui se forme en raison justement d'un manque en francisation, des réalités culturelles qui changent complètement dans nos écoles, surtout dans la région de Montréal. Alors, il y a énormément d'émotifs là-dedans et M. Roberge est très stratégique dans son approche. Ça me rassure beaucoup.
Je vais même ajouter le côté familial. Tu sais, c'est déchirant. C'est sûr, c'est quelqu'un.
Ben oui.
Là, si tu rencontres quelqu'un puis la mère est arrêté avec ses deux enfants, puis le père n'a pas accès au pays ou à la province. C'est sûr que ça vient te chercher. Tu sais, tu penses pas, là, tu y vas froidement, là, tu dis juste, OK, non, ça n'a pas de sens, là, le père devrait être ici avec sa famille. Mais c'est sûr et certain que c'est plus compliqué que ça.
Bien, on prendrait une bière à taverne avec Jean-François Roberge, puis il nous dirait que ça n'a pas de sens, ça y brise le cœur aussi, ça. Mais c'est juste qu'il y a des calculs mathématiques qui font en sorte qu'il dit, hey, écoute, j'ai déjà de la misère à offrir. Il n'y a pas un Québécois que son médecin de famille, c'est pas tous les Québécois qui ont leur médecin de famille. Fait que si j'en rentre 40 000 de plus, je vais me retrouver encore plus dans le pétrin. Donc, c'est pour ça qu'il avance de façon stratégique. C'est pas évident quand le reste des paramètres n'est pas au rendez-vous. Les logements, les écoles, on manque de profs, on manque de personnel dans les hôpitaux. Donc, c'est pas évident là-dedans.
Non, très bon point, très bon point. 8h03, on va faire une courte pause, mais avant, Max, circulation?
Henri-Quatre-Nord, hauteur rue Jean-Marchand, la voie de droite qui est partiellement travaillée par une panne.
Merci, Max. Bougez pas, on se retrouve dans trois petites minutes. Rick.